Bora, levanta.
Já levantei, já.
O cabelo da minha nega. Não percebo nada do que dizes.
Olha, olha, Bilula.
Não sei.
Não sei, mó.
Não sei.
Não sei.
Não sei.
Não sei.
Quero saber a minha história.
Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos.
Você quer viver ou morrer?
Ginette Lavigne, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de passer quelques instants en compagnie des auditeurs et auditrices de Radio Pays des Roues et RPH Sud. Vous êtes invité à la 59e rencontre cinéma de Pézenas et vous allez avoir la possibilité de présenter votre film La nuit du coup d'État. Ce film est un documentaire.
C'est un documentaire qui ressemble beaucoup à une fiction.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus très très bien où sont les frontières entre documentaire.
C'est pas aujourd'hui, c'est depuis toujours.
C'est depuis toujours.
Alors, je vous rappelle juste que le premier film, qui est la sortie des usines Lumière, les frères Lumière filment la sortie des ouvriers de leur usine. En fait, il y a 3 prises. Voilà. Et bon, on a l'habitude de dire c'est le premier film et c'est un film documentaire, c'est également un film de fiction, puisque les frères Lumière ont, sur ces 3 prises, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les 2 premières prises, par exemple, les ouvriers sortent, mais la pellicule, qui était donc de 59 secondes, c'est pas tout à fait une minute, décroche avant la fermeture des portes. Ils ont donc refait la prise plusieurs fois, et la 3e fois, ce qu'on a l'habitude de considérer comme le premier film, le film fondateur du cinéma, les portes se ferment juste à la fin du... Voilà. Donc, on est toujours entre les deux, si vous voulez, documentaire, fiction. Dès qu'on commence à élaborer quelque chose, on est nécessairement dans la fiction. On a tendance à penser que le documentaire, c'est juste la captation. C'est un peu plus complexe que ça, bien sûr. Il n'y a pas de raison d'être, c'est-à-dire ça peut être une caméra de surveillance, si vous voulez. Bon.
Donc vous allez présenter le documentaire La nuit du coup d'État.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cet événement? Bon, c'est vrai que la 59e rencontre Cinéma Pézenas a choisi de mettre en évidence le cinéma du Brésil et du Portugal, c'est ce qui explique la programmation. Mais en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cet événement historique?
Alors, le coup d'État, c'est pas n'importe quel coup d'État, c'est le coup d'État de 1974, avril 1974, au Portugal. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie là-bas. Tout simplement. Voilà. Moi, j'avais 20 ans, et pour beaucoup de gens de ma génération, cet événement a été très, très important. Voilà. Je remets un peu le contexte historique, c'est-à-dire que avril 1974, c'est 7 mois après le coup d'État de Pinochet au Chili. On est quand même encore près de 68. Enfin, les dictatures de Pinochet se mettent en place et renversent l'unité populaire chilienne qui était quand même quelque chose qui nous enthousiasmait, nous ici plutôt les militants de gauche, enfin, bien sûr. Dans le contexte international, donc d'une part il y a ça en Amérique latine, en France il y a eu des élections, et la gauche a failli passer pour la première fois. Hein, je crois que il y a à peine 1% de différence entre Giscard d'Estaing qui est élu président et Mitterrand. Au Vietnam, les Américains sont en très mauvaise position. Ils vont d'ailleurs perdre la guerre en 1975. Franco est en train de mourir. Enfin, il est agonisant. Et il y a cette dictature portugaise qui, depuis 48 ans, existe. La plus longue dictature, le plus long régime fasciste en Europe. Et brusquement, il y a un coup d'État militaire. Et c'est anachronique et exceptionnel. Ce n'est pas un coup d'État militaire de droite ou d'extrême droite. Il se trouve que il y a les militaires qui sont des cadres intermédiaires de l'armée prennent le pouvoir et immédiatement la population descend dans la rue. Et Alors, c'était une population qui était, enfin, où il y avait quand même depuis de longues années dans la clandestinité des mouvements politiques, des mouvements revendicatifs, etc., etc. Sauf qu'on ne savait pas trop, quoi. On ne le savait pas trop. Et là, c'est absolument merveilleux. Il y a cette révolution. En 24 heures, c'est la déroute de cet État fasciste et répressif extrêmement violent et sans mort. Il y a eu quand même trois morts, mais bon, ce n'est que trois, c'est pas une révolution sanglante, etc. Et bon, voilà, donc c'est absolument formidable. Donc beaucoup de gens à l'époque ont été fascinés par ce qui se passait, intéressés, il y avait vraiment des enjeux importants. Et moi je suis partie là-bas. Je ne suis pas partie en 74, je suis partie en 75. Voilà. Et puis ma foi, je suis restée là-bas. J'étais donc un peu militante de gauche, pas plus que ça. Enfin, j'étais comme ça. J'avais 20 ans, je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'étais un peu dans toutes ces histoires. Et à vrai dire, j'ai pas compris grand-chose à ce qui se passait. Voilà. Je pense que je suis restée là-bas, mais sans comprendre. Et je suis retournée 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, je suis allée au Portugal. Et j'ai fait un premier film qui s'appelle Republica, le journal du peuple, qui est l'histoire d'un journal qui est occupé par les typographes à l'époque de ce qu'on appelait l'été chaud, c'est-à-dire l'été 1975. Je me souvenais de cet épisode sans avoir très bien perçu. Je comprenais pas très bien ce qui se passait. D'abord, je parlais pas portugais. J'étais les groupes politiques, ça partait dans tous les sens. Enfin, bon, vrai, c'était quelque chose de. On était beaucoup dans de l'agitation, mais bon. Donc je suis retournée, j'ai fait donc ce premier film, Republica. À ce moment-là, j'ai rencontré Otelo de Carvalho, qui est un personnage historique important, puisque c'est lui qui a écrit, prévu, organisé le coup d'État. Et Otelo, à ce moment-là, qui est un homme qui était tout à fait sympathique, je parle de lui au passé puisqu'il est décédé l'été dernier, et Otelo, à cette époque-là, me donne son livre, qui s'appelait « Alvorada de Abril », qu'il avait écrit en 77. Alvorada de Abril, c'est l'aube d'avril, ou le lever du jour en avril, quoi, voilà, je dirais. Et dans ce livre, Otelo décrit très, très, très minutieusement comment il a monté cette affaire de coup d'État. Voilà, les contacts avec les militaires, les négociations, l'organisation, la logistique. C'est un militaire. Voilà. Donc c'est une technique du coup d'État. Technique du coup d'État en 1974, dans un moment où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Et j'ai lu ce livre. J'ai trouvé ça assez intéressant, passionnant. Et puis, je me suis dit qu'il fallait qu'après Republica, il fallait que je fasse un film sur ce coup d'État. Et donc, j'ai fait ce film avec Otelo de Carvalho. Et j'ai fait ensuite un troisième film sur des prisonnières politiques.
Toujours au Portugal.
Toujours au Portugal. Toujours au Portugal, voilà.
Portugal. Ouais. Comment se situe ce film dans votre parcours de réalisatrice? Il y a eu d'autres réalisations. Vous avez réalisé d'autres
C'était mon troisième film, je pense, troisième film, oui. J'ai commencé tard à faire des films. J'ai eu une précédente vie. On peut avoir plusieurs vies professionnelles. Et voilà. Donc j'ai eu une précédente vie. J'ai fait mon premier film, devais avoir 40 ans, et qui était un film sur ma mère, un film court. Et puis ensuite, c'était des films portugais. Bon, après, je continue. Enfin, voilà, c'est ce métier que j'ai envie de faire. Voilà.
Il y a quand même, on ne peut pas ne pas ressentir quand même, comment dire, une démarche militante dans ce que vous proposez, dans ce que vous faites.
Non, c'est pas un film militant.
C'est pas un film militant.
Non. Ah. Non, c'est-à-dire qu'il y a une démarche militante, c'est-à-dire que je pense qu'on fait des films avec ce qu'on est. Voilà, on fait pas les films comme ça à partir de rien. Moi, ça m'intéresse. Oui, les luttes sociales m'intéressent. Bon, je suis pas une militante pure et dure. Enfin, oui, j'ai des positions politiques comme beaucoup de citoyens. Hein, mais si vous voulez, je pense qu'on fait les films avec ce qu'on est. Et il est évident que faire un film sur un événement politique, voilà, c'est pas.
Le choix
mais ce n'est pas un film militant au sens où je ne suis pas en train de
d'apporter des réponses.
Ou d'apporter des réponses ou de donner la bonne parole. Ou voilà, je ne suis pas. Je sais pas très bien faire ça. J'ai pas envie non plus de faire ça. Le cinéma militant tel qu'on a l'habitude de le voir, c'est souvent un cinéma direct. C'est souvent du cinéma direct. Et moi, je ne sais pas très bien faire ça. Voilà, je me suis retrouvée à faire alors un film qui était plus dans cette optique-là. J'ai filmé les grèves de 95, les grèves des cheminots. Alors, en fait, c'est assez intéressant et ça rejoint ce que vous vouliez aborder, qui est le problème de la co-réalisation. Enfin, en 1995, quand il y a eu les grandes grèves des cheminots, il se trouve qu'il y avait une seule gare en France où il y avait quand même des trains qui circulaient et qui était la gare du Nord à Paris. Puisque cette gare du Nord, il y a des trains qui vont donc en... Il y a le Thalys qui va vers l'Allemagne et il y a l'Eurostar. Et la SNCF s'est engagée, enfin il y avait un accord entre un accord, je ne sais pas s'il y avait un accord, en tout cas les chauffeurs de ces trains, les conducteurs, devaient être des Belges ou des Anglais, jamais les Français qui étaient en grève. Bon, donc curieusement cette gare fonctionnait, c'était un peu curieux parce que les grévistes étaient là quand même, ils occupaient la gare, enfin bon c'était un peu tendu. Bon, il se trouve que moi j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Louis Comolli depuis une vingtaine d'années. Et à l'époque, je connaissais Jean-Louis, et un jour on se téléphone, il me dit « Écoute, ce serait bien qu'on aille filmer 24 heures de la vie des grévistes. » Bon, tiens, pourquoi pas. Moi, j'habite pas très loin des gares du Nord, je vais les voir, je discute avec eux dans une assemblée générale, ils me disent « Bah oui, pourquoi pas, venez. » Et donc, on s'est retrouvés à filmer 24 heures de la vie des grévistes, et il se trouve qu'au bout de 24 heures... La SNCF a voulu faire rouler des trains, un peu une provocation, avec des chauffeurs qui n'étaient pas pas anglais ni belges. Enfin, bon, il y avait un truc bizarre. Les grévistes qui en avaient un peu fatigués de voir ces trains quand même qui circulaient, décident d'occuper le poste des grandes lignes et, en occupant le poste, d'empêcher la circulation des Eurostar et des Thalys. Et bon, là, c'était vraiment c'est monté d'un cran. Il se trouve que là, notre équipe a dû nous quitter et on s'est retrouvés, Jean-Louis et moi, à filmer donc en direct cette occupation, etc., etc. Donc là, j'ai fait du cinéma direct et d'une certaine manière du cinéma militant, puisqu'on était évidemment du côté des grévistes. Enfin, on était dans leur mouvement. Ce film a été monté 7 ans plus tard, curieusement. On a filmé ça, je sais pas. Ça s'est pas fait tout de suite. Il y avait un autre film qui, voilà. Et puis au bout de 7 ans, il a fallu quand même
exploiter ce que vous aviez.
Faire aller au bout de ce film. Donc utiliser ces rushs. Et quand on a monté ce film, il y a eu un peu une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on filmait beaucoup la salle, la table de montage où on travaillait sur ce film. Et puis on a mis en regard ce qu'on avait filmé, ce que disait la télévision à l'époque, etc. Enfin, c'était voilà. Donc c'est un peu ma seule expérience du cinéma militant, je dirais. Vous voyez, c'est pas réellement du cinéma militant tel qu'on peut d'aller filmer une grève actuellement ou une occupation d'usine ou quelque chose comme ça.
Oui. Voilà. Vous avez évoqué le nom de Jean-Louis Comolli, avec qui vous avez travaillé régulièrement. Comment pourrait-on présenter ce personnage? Parce que on ne peut pas dire qu'il soit très connu, ni en tant que personne, ni
écoutez, c'est quelqu'un qui a été longtemps gay du cinéma, qui a fait des fictions et qui fait des documentaires depuis une trentaine d'années. Moi, je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années et puis on a commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire, j'ai monté ses films. Et j'ai fait un film qui s'appelle donc Jean-Louis Comolli, filmé pour voir. Qui est un film qui s'inscrit dans une collection de films qui ont été produits par l'INA et par Jean-Marie Barbe à Lussas. Ce sont des portraits de cinéastes documentaires. C'est un petit peu comme il y avait à une époque Cinéastes de notre temps, qui étaient les films d'André Labarthe. Et donc l'idée, c'était de faire des portraits de cinéastes documentaires. C'est On peut voir ces portraits sur Ciné Plus, Ciné Classique et tout ça. Voilà. Alors, il y a actuellement, dans cette collection, presque une vingtaine de films qui ont été faits, qui portent sur des cinéastes plus ou moins connus. Le dernier que j'ai monté, par exemple, c'était un film sur Amos Gitai, le cinéaste israélien, qui par ailleurs fait des documentaires. Il y a eu également un film sur Nicolas Philibert, il y en a sur Edi Pan. Voilà. Ce sont des portraits de cinéastes et qui sont très intéressants parce que ce sont souvent des rencontres entre donc, un réalisateur et un cinéaste. Le principe est de faire parler évidemment la personne sur sa méthode de travail, sur comment il travaille, pourquoi il travaille, quels sont les enjeux de ses films. Et donc, je dirais que c'est une belle école de cinéma, quoi. voilà. Et ce sont donc des gens qui sont tous vivants.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes dans, dans les fiches qui vous présentent votre travail, il est fait référence à la co-réalisation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Bon, jusqu'à maintenant, moi j'avais vu dans des génériques, assistant réalisateur, des choses comme ça, mais qu'est-ce que c'est qui fait la différence entre un co-réalisateur, une co-réalisatrice ou l'assistant ?
La co-réalisation, c'est, je pense que c'est quand on est à deux sur à réfléchir à un film. Voilà. Enfin, ce qui se passe avec Jean-Louis Comolli, on travaille donc ensemble depuis une vingtaine d'années. Alors c'est toujours dans ce sens-là, c'est toujours. Je suis co-réalisatrice de ces films, il n'est pas co-réalisateur de miens. Voilà.
Oui.
Il pourrait.
Et
mais
oui.
Il pourrait, mais ça ne s'est pas produit. Donc en général, on travaille ensemble à l'élaboration. Tiens, comment est-ce qu'on peut mettre en scène cette situation ? Éventuellement, il me dit bon, il est plus âgé maintenant et pas en très bonne santé, donc parfois je termine le tournage pas sur les entretiens, mais bon, sur des plans additionnels, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est pas. Mais c'est plus un travail en amont, je dirais, sur la réflexion, comment est-ce qu'on aborde tel ou tel problème, tel ou tel sujet, comment est-ce qu'on peut imaginer la mise en scène.
Alors que le réalisateur, l'assistant réalisateur ne participe pas à cette étape du travail.
Il pourrait. Mais en fait, très souvent, on travaille comme ça. C'est-à-dire que souvent, je suis donc avec lui au départ, et puis au moment du tournage, je fais un peu le rôle d'assistant. Quoi, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un assistant en plus. Un des intérêts du documentaire, puisqu'on parlait de documentaire fiction, oui. Ce qui m'a, moi, empêché pendant des années de faire des films, je suppose, c'est cette grande peur de la fiction. Cette grande peur d'avoir 50 personnes, ou d'avoir 100 personnes, ou d'avoir 40, je ne sais pas moi, d'être là comme comme disait Nicolas Philibert, qui en parle aussi très bien, et qui dit, on n'est pas des... on n'est pas des chefs militaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... je me suis sentie libérée et je me suis sentie autorisée à faire des films et à faire des films documentaires quand la vidéo est arrivée, que j'ai vu qu'on pouvait être 4 sur 1, voilà. Moi, je fais des films avec 4 personnes. 5, c'est le grand maximum, voilà. Et c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une énorme machine. L'intérêt du documentaire, et indépendamment du sujet, si vous voulez, c'est la liberté qu'on a, la légèreté de la technique. On n'est pas pris dans ce système énorme de la fiction, qui est quelque chose d'un peu lourd, hein, quand même. J'ai une amie qui est une réalisatrice québécoise qui a fait des fictions et des documentaires et qui me dit qu'elle veut plus faire de fiction parce que ça l'angoisse maintenant beaucoup. Et elle faisait des fictions relativement légères par rapport à d'autres. Mais il y a quelque chose de voilà.
Je comprends. Vous préférez l'implication dans un quatuor plutôt que la direction d'un orchestre symphonique ?
C'est sans doute quelque chose comme ça, oui. Et surtout, il y a cette... je pense que curieusement, on n'est plus libre. Voilà.
C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Est-ce que vous ne vous sentez pas plus libre dans ce que vous faites actuellement qu'en tant que réalisatrice d'une fiction ?
C'est libre dans le... Moi, je fais des films extrêmement écrits, hein, donc c'est pas, oui, je suis pas dans l'improvisation en permanence. Mais je sais que sur mes films, j'ai souvent la même équipe. Il m'arrive de dire à mon opérateur, écoute, j'aimerais bien faire un plan comme ça. Comment t'imagines? Et voilà. Et la chose se fait comme ça, un petit peu assez légèrement, je trouve. Voilà. Par exemple, quand pour revenir à la nuit du coup d'État, il y a eu un moment dans on a tourné en studio à Montreuil, en plus, donc pas du tout au Portugal. Et souvent le matin, j'avais un peu, je disais à mon équipe, je ferais bien. Il y a un plan comme ça qui est un peu, qui est pas grand-chose quand on le voit, ça paraît pas, mais qui était un peu complexe à faire parce qu'il y avait une grande table, il y avait un mouvement de caméra, il fallait que la table disparaisse pour qu'on puisse faire ce mouvement de caméra. Et je savais absolument pas comment fallait faire. Je disais ça, j'ai simplement expliqué à mon équipe, on était quatre, en disant moi j'aimerais bien qu'il y ait un plan comme ça et qu'on voit ça. Et puis il y avait quelqu'un qui était là qui m'a dit, mais c'est simple, Lunette, on met des roulettes sur la table. J'avais jamais pensé à une chose pareille. Mais là, les choses se font, si vous voulez. Les choses se font. Alors, je suppose en fiction aussi, hein. Mmh. Sans doute, je n'ai pas cette expérience. Mais il y a ce côté, il y a cette légèreté. Voilà. On se dit que tout est possible.
Vous avez aussi rempli les fonctions de monteuse. Et bon, quand on parle du cinéma, quand on est spectateur et qu'on va voir un film, on reçoit un produit fini. On a du mal à s'imaginer tout le travail qu'il y a, qui a été nécessaire pour arriver à ce produit fini. Et bien souvent, si vous voulez, derrière certaines fonctions, on a du mal à mettre le rôle qu'elles ont joué, à quel moment, comment, dans la réalisation finale. Quel est le rôle vraiment d'une monteuse? Ça n'est pas simplement de coller des images les unes à la suite des autres, je suppose. Il y a beaucoup plus que ça.
Il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Sûrement. Excusez-moi. Vous m'avez fait penser à une... Je crois que c'est Grus, le monsieur Grus, du cirque Grus, qui disait « L'art, c'est du travail effacé par du travail ». Voilà. Vous savez, quand on voit quand on voit un trapéziste, on se dit c'est pas si difficile, pourra le faire. Ou un jongleur. Bon, le cinéma c'est pareil, c'est de l'art c'est du travail effacé par du travail. Voilà, c'est du travail. C'est-à-dire que l'élaboration du texte, l'écriture, penser la mise en scène, penser le personnage, quel rapport qu'on a avec, tout ça, c'est évidemment du travail. Le montage est du travail. Alors, le tournage est du travail. Voilà. Est-ce qu'on tourne là? Est-ce qu'on met la caméra à tel endroit ou à tel autre? Qu'est-ce qu'on fait du son? Est-ce qu'il y a du son off? Qu'est-ce qu'on fait du son de l'extérieur? Est-ce qu'on garde le son des voitures qui passent dans la rue? Ou est-ce qu'on trouve un endroit absolument insonore et protégé? Voilà, c'est beaucoup de questions tout le temps. Et le montage, une fois qu'on arrive au montage, alors on a des rushs, souvent beaucoup, et puis ça arrive souvent en documentaire. Le réalisateur souvent ne sait pas très bien, même quand c'est notre propre film, parce que moi je monte mes propres films, on ne sait souvent pas très bien comment on va raconter et qu'est-ce qu'on va raconter. On sait de quoi on parle. Voilà. Oui. Bon. Mais il faut raconter une histoire, toujours. Voilà. Il y a un début, il y a une fin. Et ça doit tenir en une heure et demie, une heure et quart. Voilà. Et là, en fait, les images s'imposent un peu, je dirais. Il y a des moments où si vous voulez, La nuit du coup d'État n'est pas le bon exemple pour ça, parce que c'est un film qui était entièrement écrit, quasiment le texte, pas toujours, mais il a été en partie. Mais par exemple, quand j'ai fait le portrait de Jean-Louis Camolli, je savais que je voulais faire un portrait de ce cinéaste. Les extraits de films, il les a vus au moment où on a tourné, mais Bon, je le connais très bien, j'ai lu beaucoup de ses textes, je savais à peu près de quoi il allait me parler, mais il y a toujours du hasard. Bon, et quand il a fallu monter ce film, je me suis retrouvée avec, je sais pas, je dois avoir ouais, 25 heures de rush. Et il fallait, dans ces 25 heures, ne n'en prendre qu'une heure et demie pour avoir quelque chose qui se développe, qui permette de comprendre, enfin, de rentrer dans la pensée de cette personne, enfin, de ce créateur. Et penser artistique n'est jamais facile. Et puis, il faut avoir quelque chose qui se déroule, qui permette au spectateur d'entrer dans le film, et puis d'être pris par la main, d'être pris en charge, qu'on passe d'une séquence à l'autre de manière assez, assez soft, assez douce, quoi. Alors, on peut avoir des ruptures de rythme. Alors, tout ça est très, c'est très empirique, en fait, le montage. Oui. Ça a quelque chose d'empirique. C'est un peu comme la cuisine aussi. C'est-à-dire que ben voilà, il y a un moment, on goûte et on dit, il manque un peu de sel, quoi. Voilà. Et tiens là, on pourrait rajouter un petit peu de ça. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, maintenant, c'est vrai que moi, je suis avec des réalisateurs quand je monte. C'est-à-dire, je monte les films de Jean-Louis principalement. Et puis j'ai travaillé avec Laurent Roth là, pour le portrait d'Amos Guitaille. Bon, et là le réalisateur exprime ses désirs et on essaye d'aménager tout ça. Voilà.
Parce que là, quand même, obligatoirement, il y a la nécessité d'une complicité entre le réalisateur et la monteuse.
Ben, je ne sais pas si c'est complicité. Et en tout cas, il faut être dans la tête de l'autre, quoi, quelque part. Il faut comprendre vraiment ce que désire la personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là, plus que de la complicité. La complicité voudrait dire que on accepte obligatoirement les désirs du réalisateur. Ce n'est pas le cas. Il y a des affrontements dans la salle de montage.
Sûrement.
Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Il y a beaucoup d'affrontes.
Ouais. C'est ça, entre l'objectif qui est défini par le réalisateur et la perception que peut avoir le monteur, la monteuse, c'est sûr qu'à certains moments, il y a des échanges qui peuvent enrichir finalement ce sur quoi on va déboucher. Ça, c'est évident. Ginette Lavigne, je voudrais vous remercier d'avoir accepté cet entretien, d'avoir
accepté
de passer un moment avec les auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Et je sais que dans quelques instants, vous allez aller présenter la nuit du coup d'État aux spectateurs pissénois et de la région qui ont fait le choix de venir voir ce film. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.